Les cours du Collège de France, Wajdi Mouawad, chère l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Choisir une existence courte mais glorieuse plutôt qu'une vie longue et sans éclat. C'est l'offre que les dieux firent à Achille à l'orée de la guerre de Troie, donnant ainsi aux mortels une définition radicale de la figure du héros. Le héros est un mortel qui, par le dépassement extraordinaire de sa propre condition, prend les reflets d'un dieu sans jamais en devenir un, sauve le monde à la faveur de ce reflet et meurt jeune. Mais sa disparition prématurée ne sera pas vaine, au contraire, son sacrifice projette le monde vers l'avant, le délivre des ténèbres et le rend meilleur que ce qu'il était. Le héros devient par ce fait même source de mythes et de récits, et sa mort, lui conférant une gloire éternelle, le rendra immortel. De Socrate à Jésus, de Jeanne d'Arc à Thomas Sankara, de Jean Moulin à Lalla Fatman Soumer, des comètes magiques à des degrés divers et des intensités diverses ont régulièrement traversé la constellation de l'histoire humaine, la transfigurant, redonnant à chaque fois un souffle nouveau aux actes et à la parole, l'espoir, obligeant au changement et à la transformation du monde. Ces figures ont en commun d'avoir eu le courage de poser, selon le mot du poète québécois Claude Gauvreau, des actes d'une si complète audace que même ceux qui les ont réprimés ont été forcés d'admettre qu'un pas de délivrance a été gagné pour tous. Alors, combien d'entre nous, ici, seraient prêts à faire le choix de cette vie courte et glorieuse si Hermès, le radieux messager des dieux, venez s'asseoir à nos côtés pour nous proposer ce marché. Alors, une vie courte et glorieuse? Et de ceux qui choisiraient la vie courte et glorieuse, combien accepteraient finalement la mort sans rechigner au moment où celle-ci se présentera à eux? Combien, à l'instar d'Antonius Bloch, le chevalier du septième sceau qu'interprète Max von Sydow dans le film réalisé par Ingmar Bergman, combien ne proposerait pas finalement à la grande faucheuse une partie d'échecs, de poker, de bowling, un uno, un trou de cul, peu importe, histoire de retarder l'échéance, la retarder juste ce qu'il faut, le temps d'aller vérifier si leur sacrifice en a valu la peine. Et ainsi, allant par les villages, comme le dit Peter Handke, parcourant le monde à l'instar du chevalier, il n'y trouverait évidemment qu'indifférence et misère. Les gens s'en foutent. L'amertume les gagnerait et ils se diraient « Non mais avoir su, je ne me serais pas sacrifié pour des renégats qui continuent à vivre misérablement et ne font rien de la vie qu'il leur est donnée, rien n'a changé de ce monde que j'ai cru sauver et je vais mourir pour cela, m'en aller bien trop jeune au pays des ombres sans n'avoir aimé ni n'avoir connu la douceur de la vieillesse. » Ils éprouveraient alors peut-être ce que le Virgile mourant de Hermann Brock éprouve qu'en rentrant à Rome sur le navire de César dans ce qui est, il le sait, son dernier voyage, il contemple le spectacle lamentable offert par la fange et la vulgarité de la horde des sénateurs grossiers parvenus et incultes qui voyagent avec lui, si ventrus de leur pouvoir, imbus jusqu'à la monstruosité d'eux-mêmes, se vautrant dans l'opulence d'une nourriture qu'ils considèrent comme une chose qui leur est due. Et lui, le poète, Virgile, le manuscrit de l'Énéide entre les mains, déconfit de colère, se demande « Mais est-ce que c'est donc pour ces impotents le pire de ce qui existe que j'ai écrit ce que j'ai écrit et donné le meilleur de moi-même ?» Alors l'envie de tout brûler est grande pour Virgile, tant cela sonne à ses yeux comme une trahison de sa part, tant le sentiment d'avoir contribué à conforter un monde qu'il exècre contre celui qu'il aurait voulu voir apparaître ouvre dans son âme un gouffre de désespoir. Bref, Choisir une existence courte et glorieuse plutôt qu'une vie longue et sans éclat n'est donc pas une chose si aisée. Pourtant, sur le papier, c'est beau. On signerait les yeux fermés. Qui ne souscrirait pas à l'idée d'être un héros ? Mais devant la perspective d'une mort prématurée, la plupart d'entre nous fuiraient. Comment, héros ou non, accepter la mort ? Comment ne pas trembler devant la mort ? À l'instant de la mort, tout le monde tremble, tout le monde. Lorsque survient le temps de se séparer, de sauter à la mer comme le condamné saute par-dessus bord et emporté par le flot, juste avant la noyade, distinguant à travers les ravages de l'agonie les autres, les vivants restés sur le navire de la vie et qui poursuivent le voyage, tout le monde se transforme en un chien qu'emporte le typhon, le chien avec les yeux du chien. Comment alors, malgré la promesse des dieux, ne pas hurler « je veux rester sur terre, je veux rester sur terre, je veux rester dans la lumière » Comment affronter l'effroi de la mort sans trembler? Cet effroi qui nous garde solidement attachés à la vie, qui nous protège même de nous-mêmes, car sans cet effroi de la mort, quiconque, au moindre désespoir un peu trop prononcé, n'hésiterait pas à mettre un terme à son voyage. Qui, en effet, endurerait le fouet des siècles? L'orgueil qui nous rabroue? Qui endurerait le tyran qui brime, la loi qui tarde et la morgue des gens en place, alors qu'ils pourraient mettre fin à tout cela en un seul coup de dague, se demande Hamlet. Qui voudrait suer une vie de chien si la terreur de quelque chose après la mort ne venait troubler notre volonté? Cet effroi nous constitue. Ne pas craindre la mort est dangereux. C'est comme être hémophile, avoir un sang qui ne se coagule pas. La moindre blessure peut être fatale. Accepter d'être un héros, c'est donc dépasser cet effroi. Parmi ceux et celles qui ont fait l'expérience d'une mort imminente, le témoignage de sensations agréables, faites de légèreté et bonheur ineffable, revient souvent. Beaucoup ont dit qu'une fois cette béatitude touchée, se voir ramener à la vie à la faveur d'un secours efficace, bouche à bouche ou massage cardiaque, leur a fait éprouver une réelle tristesse. Peut-être alors que cette béatitude que l'on ressent d'après ces témoignages étonnants n'est qu'un système que l'esprit met en place pour affronter l'effroi et en diminuer la portée. Car s'il fallait en plus que la mort soit pleine d'amertume, comment seulement espérer mourir en paix et accepter l'idée de sa propre disparition ? Achille choisit donc la vie courte et mourut glorieusement lors du saccage de Troie. Et depuis, nous chantons ses exploits. Quoi de plus sublime qu'un héros qui meurt jeune ? Achille, Antigone restent, par leur jeunesse et l'intransigeance de leur adolescence, les plus beaux des héros. Car quoi de plus bouleversant que la mort de la jeunesse ? Achille, tout comme Antigone, fut adulé et fut la source de récits innombrables quand d'autres héros sont tombés dans l'oubli. Certains moururent fous, comme Ajax, quand d'autres, tels Ulysse et Ménélas, moururent vieux et dans leur lit, et riches. Si la jeunesse sacrifiée donne donc un éclat unique à l'héroïsme, il existe la caste des héros gériatriques. Elle existe bel et bien. Or, de cette catégorie, il existe une sous-catégorie encore inférieure qui est celle des héros qui se découvrent sur le tard. Celle de ceux qui furent médiocres leur existence durant et qui, à la suite de circonstances hasardeuses, se dépassant eux-mêmes au dernier moment, dépassant leur faiblesse sous le regard étonné de tous, sauvent le monde et meurent, renversant d'un seul coup leur médiocrité d'autrefois. Ils sont alors rachetés. Le cinéma américain de divertissement est rempli de héros de ce genre qui, sur le tard, après avoir été de mauvais pères, il s'agit presque exclusivement d'hommes en conflit avec un enfant qui est presque toujours une fille, envers laquelle ils ont beaucoup à se faire pardonner, alcoolisme, misère intellectuelle ou abandon. Ces mauvais pères, donc, dans des circonstances extraordinaires qui les transforment en héros, font don de leur existence afin de sauver le monde, et parfois l'univers, d'une destruction apocalyptique se rachetant par la même occasion auprès de leur progéniture. Armageddon est un exemple archétypal de cette cinématographie. Réalisée par Michael Bay en 1998, la fin du film offre à voir le sacrifice de Harris Stamper, un spécialiste des forages pétroliers ayant raté sa vie domestique, interprété par Bruce Willis, qui, seul sur un astéroïde aussi grand que le Texas, filant droit vers la Terre, aura à déclencher la charge nucléaire qui devra dévier cet astéroïde de sa trajectoire, évitant à notre planète une annihilation totale. Un problème technique empêchant l'explosion de la charge impose que quelqu'un soit sur place pour la faire, et ce sera donc Harry Stamper. Quelques minutes avant l'explosion finale, nous sommes témoins d'un échange entre Harris, debout sur l'astéroïde, et sa fille, Grace, en larmes, au centre du commandement de la NASA. Grace, je sais que je t'ai promis que je rentrerai à la maison, lui dit son père depuis l'astéroïde, mais on dirait que je vais devoir rompre cette promesse. Je t'ai menti aussi, papa, lui répond sa fille, en larmes, quand je t'ai dit que je ne voulais pas être comme toi, parce que, en fait, je suis comme toi. Tout ce que j'ai de bon en moi, je le tiens de toi. Je t'aime tellement, papa. Je suis si fier de toi. J'ai tellement peur. Je le sais, chérie, mais il n'y aura bientôt plus rien à craindre. Et j'aimerais pouvoir être là pour t'accompagner jusqu'à l'hôtel le jour de ton mariage avec AG. Je t'aime, Grace. Je t'aime aussi, papa. Bon, ben, je dois y aller maintenant, chérie. Papa. Non, non, papa. Alors, c'est déchirant. On pleure, bien sûr, devant un tel spectacle. Le héros qui non seulement fait sacrifice de sa vie, sacrifie aussi les joies auxquelles il aurait pu avoir accès, conduire sa fille à l'hôtel pour son mariage, extrapolation du bonheur de futurs petits-enfants. Mais, par souci du bien commun, par souci du bien de la planète, Harry Stamper renonce à sa vie et ses promesses, et meurt en déclenchant la charge nucléaire, se rachetant aux yeux de sa fille, devenant météorite lui-même, retrouvant la définition du héros qu'on qualifie souvent d'étoile filante, cette lumière qui, au firmament du ciel obscur, éclaire et réalise les vœux de chacun avant de s'éteindre à tout jamais. Il en va de même pour un autre héros, Tony Stark, dit Iron Man, qu'interprète Robert Downey Jr. dans la série des Avengers. Dans Avengers Endgame, réalisé par Anthony et Joe Russo en 2019, nous assistons, liquéfiés par l'émotion, à l'inacceptable mort de Tony Stark offerte pour délivrer l'univers au complet de l'épouvantable domination du non moins effroyable Thanos. La main dans le gant qui contrôle les six sources au fondement de l'univers, Tony sacrifie sa vie d'un simple claquement de doigts, conscient que l'énergie qu'un tel geste exige aura raison de sa vie. Au début du film, pourtant, il avait fait promettre à Captain America, en échange de son engagement dans le combat, de rester en vie pour voir grandir sa fille qu'il aime par-dessus tout. Captain America promettra, mais échouera à tenir sa promesse. Tony Stark meurt sous nos yeux, incrédule, et ceux de tous les héros de la série. Tout comme Harry Stamper, Tony Stark avait aussi donc une fille. Elles n'ont pas le même âge. Grace, la fille de Harry, est adulte. Morgan, celle de Tony, encore enfant. Mais Harris, autant que Tony, aurait voulu voir grandir leur enfant et les conduire à l'hôtel du mariage. Ce qui nous fait entrevoir combien le conservatisme des structures familiales traditionnelles chez le super-héros américain est gravé profondément dans son inconscient. Et tout comme dans Armageddon, la fin de Avengers Endgame nous offre aussi la parole bouleversante du père pour sa fille. Là, un appel téléphonique entre l'astéroïde et la Terre. Ici, un message post-mortem sous la forme d'un hologramme au jour de l'enterrement du héros qu'il a pré-enregistré en prévision de sa mort avant le combat final. Tout le monde veut un happy end, dit en substance Tony Stark à l'intention de sa fille qu'il aime par-dessus tout. Mais ça ne finit pas toujours comme ça. Alors si tu écoutes ce message, c'est que je suis mort. J'espère alors que c'est une célébration et qu'on aura réussi un peu à restaurer une nouvelle version de cette Terre, de l'univers, pour le meilleur ou pour le pire, c'est le monde dans lequel tu vas grandir de toutes les façons. Mais tu vois, c'est un truc de héros. La fin du voyage fait partie du jeu. Je t'aime 3000 fois. Dans la salle principale, pleine à craquer de l'UGC des Halles, le silence est à couper au couteau. L'émotion est à son comble. Pour bien des fans, ce moment grandiose reste un moment inconsolable. Et il a en cela, par l'engouement populaire qu'il suscite, la qualité de nous faire entrevoir ce que, au 8e siècle avant notre ère, ont pu ressentir les Grecs lorsque, dans tel ou tel village assemblé pour un mariage ou une fête, l'Aède chantait la mort de Hector et celle de Achille. Quelle émotion ! La mort de Tony Stark à l'UGC des Halles s'est faite dans les mêmes larmes et les mêmes reniflements, et du village grec de la période archaïque au petit cinéma d'une petite ville industrielle où le chômage bat des records, ce sont les mêmes spectateurs abasourdis devant la mort de leur héros. Iron Man meurt. Qui pourrait croire ces deux mots ? Son cœur a cessé de battre. C'est l'effondrement dans la salle, surtout les hommes, qui pleurent dans ce qu'il leur reste de pop-corn et de M&M jaune. Pour eux, la mort de Tony Stark, c'est la mort de Patrocle. C'est la mort de l'amant. Et là, dans la salle, en dimension IMAX, se joue inconsciemment tant d'homosexualité refoulée. L'assassinat de Bachir Gemayel en 1982 par les services secrets syriens avait produit la même émotion démultipliée par le fait que ce n'était pas une fiction, ni un temps pour le pop-corn et les M&M jaunes, mais la réalité d'une guerre civile effroyable, libérant les pulsions sexuelles chez les miliciens chrétiens qui vouaient pour le jeune président un culte aveugle, qu'il regardait comme un héros à la jeunesse éternelle, comme l'amant sublime, eux, les éplorés, tels des Achilles inversés, inconsolables à la mort de Patrocle, se sont bourrés le nez de cocaïne, la gueule d'amphétamine et les veines d'héroïne pour se ruer comme des fous vers les camps de Sabra et Shatila où, sous l'œil de l'armée israélienne et ses fusées éclairantes, trois jours et trois nuits durant, ils ont abattu leur vengeance aveugle, non pas contre les Hectors des Moujahidines palestiniens qui auraient pu et su se défendre, mais contre des femmes et des enfants perpétrant un des massacres les plus tribales qui s'est fait au cours de ces années de guerre. Mais contrairement à Bachir Gemayel, dont la mort n'a absolument rien sauvé du tout, celle de Tony Stark et Harry Stamper a sauvé le monde. Ils ne sont pas morts pour rien, eux. Non. C'est pour la bonne cause. En ce sens, notre admiration est à la hauteur du fantasme. Qui n'aimerait pas être un tel héros ? Être source d'autant d'émotions parce qu'il fait sacrifice de sa vie pour le bien commun ? Qui n'aimerait pas être pleuré ainsi par tout le monde au jour de sa mort, tels des Oum Kalthoum, des Gandhi, des Martin Luther King, entre là, Jean Moulin, au son des tambours de ton armée de l'ombre ? Qui ne fantasme pas le sublime de sa vie perdue, sa vie donnée, sa vie offerte, puis sa vie retrouvée dans la mémoire des grands hommes ? Rien, rien, rien ne peut être reproché à de tels héros. Ils ont été parfaits, exemplaires. Ils sont morts pour nous. Ils auront leur nom dans le dictionnaire, et pour la bonne cause. Ils auront leur rue. Ils auront leur parc, des boulevards, des stations de métro. Le cinéma américain de divertissement exacerbe et propulse ces figures au pinacle de tout dépassement. Mourir innocent pour que le monde vive sa culpabilité. Dette infinie envers le héros, l'excellence. Qui pourrait contredire un tel geste ? Dire que c'est mal, que ce n'est pas bien, qui pourrait ? Qui pourrait juger ? Vas-y d'abord, vas-y, donne ta vie, toi, en claquant des doigts dans un gant ridicule et habillé en collant, et on en reparlera après. En ce sens, les films de divertissement américains célèbrent toujours une morale et des valeurs fondées sur une unanimité incontestable. Le héros se tue lui-même pour sauver le monde, et tout le monde pleure, tout le monde. Tout le monde. Et le monde, de ce fait, est sauvé et peut donc vaquer à ses occupations, se marier et, se mariant, acheter une machine à laver, une sécheuse, une voiture et bientôt une poussette, un siège auto, toute la panoplie qui accompagne la vie domestique. Pensons une seconde à toutes les laveuses sécheuses qui ont pu être achetées parce que l'astéroïde a été dévié de sa course grâce au courage de Harry Stamper. C'est Darty, c'est Walmart et Amazon qui sont contents. On ne va quand même pas passer notre temps à pleurer. La vie continue. On disait quoi déjà avant tout ça, là, avant l'astéroïde, tout ça, la fin du monde, on disait quoi là ? Ah oui, que ça serait bien de changer de machine à laver. Bah, allons-y, le monde continue comme avant. Ce n'est donc pas le monde qui a été sauvé, mais un monde, un certain monde bien précis. Et que ce soit Harry Stamper ou Iron Man, ni l'un ni l'autre ne sauve le monde de lui-même, ne le sauve pour lui faire prendre conscience de ses injustices et de ses violences, le faire entrer dans une nouvelle ère, pour qu'un pas de délivrance soit gagné par tous, comme le dirait Claude Gauvreau, au contraire. Il le sauve pour qu'il continue à être exactement ce qu'il était avant la menace. Il le conserve. Un monde sauvé pour le héros américain est un monde inchangé. C'est donc un sacrifice dont le seul but est d'assurer une continuité à l'hégémonie du confort. Il y a une ironie de sauver la Terre pour qu'elle puisse poursuivre son agonie sous l'accélération de sa carbonisation. Aristempeur dévie un astéroïde afin d'empêcher la moindre déviation à la course effrénée d'un capitalisme qui se présente ici sous les allures de Grèce, une fille pleine d'allant dont la finalité est d'être conduite à l'hôtel pour consommer son mariage. Consommer étant ici le maître mot de ce qu'il y a à sauver. Du fait de ce conservatisme, de cette absence totale de métamorphose, du fait que le monde ne change pas, il n'y a pas de catharsis dans ce genre de film, malgré tout l'affect dans le jeu des acteurs sur lequel se superpose une musique émouvante et les larmes les plus sincères des autres personnages. Rien de particulier, au fond, est arrivé. Rien. Un homme est mort pour avoir appuyé sur un bouton. Bon. Pas de collision frontale entre notre condition d'être humain et notre manière de vivre. Il n'y a aucune remise en question, au contraire. Il y a un détournement de tout ce qui pourrait mener à cette remise en question. Il n'y a donc pas de catharsis parce qu'il n'y a rien de tragique dans les sacrifices de ces héros, aussi attachants soient-ils. On ne tremble pas pour eux. On ne tremble pas. Au contraire. Aussi sympathiques puissent-ils être l'un autant que l'autre par leur humour et la qualité de leur interprétation, ils restent les marionnettes de gestes sacrificiels qui ne relèvent ici que du commercial. Je meurs pour que vous continuiez à vivre dans le même confort qu'avant. Ne changez rien et achetez un bidet en mémoire de moi. Alors des exemples tels Armageddon et Avengers Endgame, il en pleut dans le cinéma du genre. Et en dehors du plaisir de se retrouver devant des films dont le niveau de décibels et l'inventivité des combats et des violences créent une sorte de massage cérébral plein de fantaisie, ce qui est émouvant, c'est la tentative des scénaristes de vouloir se rapprocher d'une manière ou d'une autre, mais pas trop, des grands mythes qui remontent au berceau de l'humanité. La dispute entre Captain America et Iron Man au cœur de l'épisode intitulé Civil War reprend les mêmes ingrédients qui déchirent Agamemnon et Achille au début de l'Iliade. Et leur réconciliation après l'ambassade de Doctor Strange qui ramène Iron Man au cœur du combat et lui coûtera la vie est calquée sur celle de Ulysse pour réconcilier Achille et Agamemnon après la mort de Patrocle. Dans ces films-là, c'est toujours l'Iliade et l'Odyssée reprises à la sauce judéo-chrétienne, puisqu'étant devenue une dictature dans l'épique lutte du bien contre le mal, la vie du Christ oblige tous ces films, souvent cousus de fil blanc, à suivre la structure dramaturgique de l'Évangile et le plus souvent celui de Saint Matthieu, qui est le plus organisé et le plus chronologique des quatre évangélistes non apocryphes. Un homme jeune et beau, sauvant les pauvres et les miséreux grâce à des pouvoirs miraculeux tels que se coller aux parois des gratte-ciels comme une araignée ou voler dans l'air doué d'une force herculéenne, ce jeune homme donc voit surgir une figure diabolique, un méchant, dont le seul objectif consiste à détruire le monde civilisé. Au premier chapitre du récit, le héros, grâce à ses pouvoirs et son courage, parvient à refouler le méchant. Au second chapitre, le méchant revient, bien plus fort et plus puissant, et parvient non seulement à vaincre le héros, mais aussi à le crucifier, plongeant le monde dans l'obscurité et le désespoir. Le héros est souvent laissé pour mort. Souvent même, il meurt pour de bon. Mais au troisième chapitre, la résurrection du héros se matérialise sous nos yeux, soit parce qu'il a réussi à remonter le temps, soit en passant par le multivers, soit parce qu'en réalité, il n'était que grièvement blessé, soit parce que retrouvant dans sa poche le médaillon de sa fille qui, au début du film, lui a dit « Tu sais, papa, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es têtu comme une mule. » Alors, se souvenant de ces mots magiques, il reprend ses forces, se relève, ressort de son tombeau, renaît et engage un ultime terrible combat contre le mal dont il finit par sortir vainqueur. Tous les Superman, les Spider-Man, les Batman, qu'ils soient merveilleusement réalisés ou non, suivent ce schéma christique en trois temps, celui du Père, celui du Fils et celui du Saint-Esprit. En plus des mythes grecs et la structure christique, ces films peuvent aussi, parfois, au détour, avoir des teintes shakespeariennes, telles les Batman réalisés par Christopher Nolan, où le héros est enduit par l'ambiguïté de la violence et la sourde obscurité du mal. Mais contrairement à Iago, dont les raisons qui le poussent à la nuisance se perdent dans les méandres des mystères humains, Batman a juste eu une enfance malheureuse, alors ça l'excuse. D'autant plus qu'au bout du compte, tel Darth Vader, l'ultime méchant des Star Wars, il y a encore du bon en lui. Et ce bon se révélera meilleur que le mal. Dans le but de nous dire que notre époque est devenue plus sombre, de nous faire aussi frissonner, pour donner un peu de sel au récit, dire que nous ne sommes plus aussi naïfs qu'à l'époque des premiers Batman qui, elles, l'étaient, naïfs, on fait flirter nos héros avec les ombres de Lady Macbeth et Richard III, on les nimbe de l'aura rimbaldienne de Hamlet, mais au fond, c'était juste pour rire. pour de faux, puisque les réalités commerciales des studios imposent à ces films, au budget faramineux, la vertu comme limite indépassable. Même si tout y est sombre dans ces films, il faut quand même que ça reste adorable. Il faut que ça se termine bien, même quand ça se termine mal. Mais l'essentiel de tout cela est ailleurs. Il se situe dans un minuscule détail, ce fameux presque rien yankelevitchien. Le point commun entre Harry Stamper, Tony Stark et tous ces merveilleux héros, c'est que, eux, face à la mort, ils ne tremblent pas. Jamais. Ils n'hésitent pas. Jamais. Au contraire, beaucoup ont encore la disponibilité de faire un trait d'esprit, une sorte de sarcasme, une dérision, une autodérision même, qui nous fait rire. Mais ils ne tremblent pas. Jamais. C'est le noyau imputrescible de ce type de héros. Alors que les héros grecs tremblent tous devant la mort à l'instant où les ténèbres leur couvrent les yeux, le héros des films de divertissement américains ne tremble pas. C'est une marque de fabrique. Est-ce parce que dans l'inconscient politique américain, un républicain, ça ne tremble pas ? Ça agit impitoyablement. Un républicain n'a pas d'état d'âme et c'est pour ça qu'on vote pour lui. C'est sa force, c'est sa puissance. C'est ce qu'il nous offre, c'est ce qu'il nous propose. Nous pleurons, nous tremblons, mais lui, le républicain, non, ne tremble pas. Un républicain, ça sauve le monde et seul, et seulement s'il veut. Par la force de ses muscles, la puissance de sa volonté et la panoplie de ses armes, allant du couteau à double tranchant jusqu'au fusil mitrailleur à gros calibre, un républicain fait ce qu'il veut, pense comme il veut et dit ce qu'il veut et dit parfois ce qu'il pense. Il y a certainement une lecture politique à faire du tremblement. Mais il est possible aussi que si ces héros ne tremblent pas au moment où ils vont mettre fin à leur jour, c'est précisément parce que le choix qu'ils ont à faire n'est pas un choix qui fait trembler l'âme. En fait, ils n'ont en vérité absolument rien à perdre. Pourquoi trembler ? Rien de compliqué se joue pour eux. Ils ont tout à gagner. Ils n'ont en quelque sorte pas le choix. Ils meurent, ils sauvent le monde et c'est tout. C'est eux qui meurent, ils raflent toute la mise. Ils sont à la fois et victimes et héros. En se tuant, ils sont donc à la fois le sacrificateur et le sacrifié. Il n'y a que eux. Ils sont tout, encore une fois, l'unité trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu qui peut tout, l'agneau sacrifié et l'esprit qui sauve le monde et unit ce qui allait être fracassé. Le cinéma américain de divertissement ne peut pas s'aventurer plus loin. Il est piégé depuis longtemps dans ce dogme et ne peut que tourner en rond. Impossible de trembler, impossible. Et qui ne tremble pas, eh bien, oublie. Cela reste acceptable et relève du domaine d'un fantasme possible. Fantasmer de mourir et sauver le monde ne fait pas de mal, ce n'est pas inquiétant, ce n'est pas dangereux, pourquoi trembler ? Ça n'implique que nous. Et si les spectateurs reviennent voir ces films par milliers, c'est pour rejouer précisément ce même fantasme qu'on a tous besoin de revivre comme un onanisme qui offre à l'esprit d'atteindre par ses propres moyens la jouissance d'une identification qui sera à la fois victimaire et héroïque. Je meurs et je sauve le monde. Je suis à la fois victime et sauveur du monde. Quoi demander de plus ? C'est le gros lot de notre époque. Victime et sauveur du monde. Et on me pleure en plus. Le paquet de pop-corn entre les cuisses, la main allant venant du paquet à la bouche, le geste masturbatoire est éloquent. Que c'est bon, je suis le héros qui meurt, on me pleure, oh oui, encore, encore, que c'est bon, encore, oh oui, encore, je fantasme, ça y est, je fantasme. Pipe chaud de l'imagination qui n'est pas interdit au moins de 18 ans et bien au contraire. Mais tout ça, bien sûr, a un arrière-plan. Par miroitement, par réflexion, par association, on sent passer le reflet d'autres héros qui ont, eux aussi, sauvé le monde, mais en suivant des chemins autrement plus problématiques. Couche par couche, à force de voir des héros qui, juste avant de mourir ou juste après être morts, s'adressent à leur fille, ça finit par nous dire un truc. Mais quoi ? Quoi ça me fait penser, un héros qui a un problème avec sa fille et puis ça se passe mal et à la fin il y a quelqu'un qui meurt et on pleure, mais ça me dit un truc. Et on le sent sur le bout de la langue. Et à force de creuser les méninges, on finit par voir surgir la figure ancienne d'Agamemnon, ce héros que Tony Stark et Harry Stamper peuvent considérer comme leur lointain aïeul, lui qui a commandé l'ensemble des armées grecques parties en mer pour ravager Ilion, la cité troyenne. Agamemnon est semblable en tout point au super-héros américain. Il est fort. Il est puissant, il a le pouvoir, il commande. Il est l'incarnation du masculin. Ce n'est pas un intellectuel tel Ulysse. Ce n'est pas une âme sensible comme Achille. Ce n'est pas un esthète comme Hector, ni une brute épaisse telle Ajax. Non, Agamemnon, c'est l'homme hétéronormé qui, tout comme Aristemper et Tony Stark, a une fille. Il en a même trois, en plus d'un fils compliqué. Mais avec lui, sur le navire le conduisant vers Troie, il a amené sa fille préférée, son aînée, Iphigénie. Or, voici qu'arrive en pleine mer, au milieu de rien. Les vents tombent, immobilisant pour de bon toute l'armée grecque. Les jours, les semaines passent, les vivres baissent, l'astéroïde se rapproche de la Terre, Thanos va claquer du doigt et détruire le monde, l'armée grecque risque alors l'anéantissement, elle va mourir de faim, alors il faut sauver le monde. À l'image de Tony Stark et Aristemper, Agamemnon sera ce sauveur. Mais la comparaison s'arrête là. Et le sacrifice d'Agamemnon est autrement plus douloureux que celui que les studios américains sont en mesure d'accepter. Puisque, pour que se lèvent les vents et que le monde soit sauvé, ce n'est pas Agamemnon qui doit être sacrifié sur son astéroïde, mais sa fille tant aimée, Iphigénie. C'est elle qui doit mourir. Ainsi le veut l'oracle. Non seulement doit-elle être sacrifiée, mais l'oracle, implacable, exige que ce soit sous la main de son père. Mais Agamemnon aime Iphigénie, d'un amour infini, comme Aristemper et Tony Stark aiment Grace et Morgane, leur propre fille. Agamemnon entre dès lors dans le tragique, là où il laisse ses lointains descendants sur le pont de la douleur. Ah oui, bah oui, on rigole moins tout à coup. Mourir soi et devenir un héros au regard de sa fille, c'est chouette, c'est facile, mais égorger sa propre fille sous le regard des autres et entrer dans l'histoire tel l'infanticide est une autre paire de manches. En n'étant pas celui qui meurt, Agamemnon se voit refuser ce qui rend tout acceptable, le statut de victime. Être la victime est un passeport, est un passe-partout qui ouvre la porte à toutes les dignités et toutes les vertus. On a tout pour soi, on a la parole. L'oracle condamne Agamemnon à n'être que le bourreau. Et le monde, on le sait, est impitoyable avec les bourreaux. C'est le prix à payer s'il veut sauver l'armée. Agamemnon se met alors à trembler. Le pop-corn s'avale tout à coup de travers. Ce n'est plus un film de divertissement américain, mais une production hongroise surtitrée en une langue impossible, en noir et blanc, d'une durée de 24 heures qu'il faut voir sans tousser. Et que jamais, au grand jamais, une telle chose ne m'arrive, se dit-on. On rejette toute possibilité d'identification. On ne veut pas être ça. Alors s'effondre le fantasme. S'allument les lumières du pipe-show. Je ne veux pas fantasmer ça. La fille qui meurt sous le bras du père, ça c'est impossible. Dans le cinéma américain de divertissement, on retrouve très souvent des histoires construites sur le lien père-fille. Et souvent, la fille victime n'est que le prétexte pour le déploiement musculaire du père. Sa fille ayant été violée et assassinée, le héros s'emploiera à une vengeance impitoyable. Ou bien sa fille, enlevée par de dangereux terroristes, force son père, héros de l'intrigue, qui pourtant avait décroché et s'astreignait à la pêche en une vie dont franchement personne ne voudrait, en chemise à carreaux, à déterrer la caisse dans le jardin dans lequel il avait enterré pour de bon, croyait-il, sa panoplie d'armes. C'était après la mort de sa femme, il en avait été très malheureux, d'ailleurs on le voit à la faveur d'un flashback, il pleure en silence car c'est un taiseux. Il était devenu sage, mais devant la menace faite à sa progéniture, rien ne l'arrêtera dans la débauche de violence. Ces récits-là, au fond, restent tout à fait acceptables. Un père venge sa fille. C'est ce que tout bon mâle occidental doit faire auprès du sexe faible. Peu importe le nombre de morts, d'ailleurs. Mais un héros qui doit tuer lui-même sa fille pour sauver le monde, qui doit donc renoncer à ce qui lui est le plus cher pour que le monde puisse continuer à être ce qu'il est et que Darty, Walmart et Amazon soient sauvés, ça, ce n'est pas possible. Ni pour Darty, ni pour Walmart, ni pour Amazon. Sacrifier un enfant pour sauver le mercantile reste jusqu'à aujourd'hui inacceptable. Sacrifier un enfant pour sauver le mercantile est une ligne rouge qui peut-être sera bientôt franchi à l'aune de la nouvelle administration en place à la Maison-Blanche qui semble nous dire depuis quelques semaines, à travers des injonctions et des déclarations d'une violence qui bouleverse le monde, que rien, dorénavant, rien, absolument rien, ne doit se mettre en travers de l'homme en état d'érection. Rien ne doit le gêner dans sa course vers l'objet qu'il doit violer afin d'en tirer le maximum de profit. L'homme en état d'érection, avançant vers la virginité du sexe, de la dignité, de l'humanité, dans ce qu'elle peut avoir en partage, cet homme-là, au pinacle de la lumière, peut et doit tout pénétrer. Les lois seront transformées pour qu'il pénètre. Certaines seront abolies pour qu'il pénètre. Les liens d'amitié détruits pour qu'il pénètre. Ceux avec les organisations internationales revues à cet effet pour permettre toute pénétration qui jusque-là était bridée par les normes, qu'elles soient sanitaires, écologiques, politiques ou culturelles. comme une réponse d'une violence inouïe au mouvement MeToo et la liberté révolutionnaire qu'il a offert au monde grâce au courage héroïque de milliers de femmes, l'homme en état d'érection revient comme un refoulé avec toute la brutalité dont il est capable pour inverser le langage et devenir celui qu'il faut célébrer. C'est ce que la première et la plus puissante des démocraties semble nous dire depuis quelques jours. L'homme en état d'érection peut pénétrer ce qu'il veut, quand il veut, et pour cela, le mensonge sera explicitement son arme. Si, pour pénétrer ce que jusque-là a réussi à être protégé, il faille passer par la malversation, le chantage, la désinformation et l'humiliation, il faut alors le faire avec la fierté du boxeur sanglant au moment du chaos. Il a droit de pénétration dans toutes les innocences, car cet homme-là est celui qui éjacule notre prospérité, notre bien-être, notre fierté, qui éjacule longuement et en répétition. C'est notre prospérité qui sort de son sexe. C'est Homo erectus erectus, c'est son temps, c'est son règne. Tout, absolument tout, doit célébrer son érection. Alors, dans l'obéissance à cette érection, peut-être verrons-nous bientôt sur nos écrans des films de divertissement américains montrant une nouvelle catégorie de héros, sacrifiant sans trembler leurs propres filles, leurs propres fils, au lieu de mourir eux-mêmes, afin que le monde puisse continuer à être ce qu'il est et comme il est. Le lieu du viol, institutionnalisation du viol, dictature de l'érection sur toute chose, et que ce qui ne peut pas être pénétré soit alors éliminé, car il ne produira aucune richesse. Ce qui refuse la pénétration par le sexe éjaculateur de la puissance autoritaire soit rejeté, renvoyé et méprisé. Non mais de quoi tu te plains ? Je te pénètre, c'est pour ton bien. Tu devrais te montrer reconnaissant. Le coupable, c'est toi, puisque tu refuses que je te viole. Comment veux-tu alors que je ne te méprise pas ? Je suis la victime, puisque tu m'empêches de te violer. Ce qui ne peut pas justifier son utilité est à effacer. Ce qui le peut est à garder en réserve. Assumez cela et sans tremblement. Sans tremblement. L'homme en état d'érection pense que son bien personnel est le bien commun. Pourquoi tremblerait-il ? Or, ce qui sauve Agamemnon, ce qui sauve Agamemnon de cette violence, de cette brutalité, de cette bestialité, c'est qu'il tremble. Il tremble, couteau à la main, et en son âme et conscience, Agamemnon se maudit au plus profond de lui-même. Mais entre son intérêt et le bien commun de la Grèce et des hommes et des multitudes des vaisseaux, il sait qu'il lui faut privilégier le bien commun. Il y a une violente séparation entre les deux, entre son bien commun et le bien personnel. Alors, se noircissant à jamais l'âme, il tranche la gorge d'Iphigénie, tandis que le vent se lève. Et le vent se lève qui mènera à la guerre et à la destruction de Troie et à d'autres violences encore qui verront tant et tant de deuil. À cette mise à mort, l'immense Iphigénie réagit avec amitié pour son père. Mais pas par compassion seulement, par appartenance au même monde. En cela, Iphigénie indique à son père qu'elle et lui font partie d'un monde qu'ils aiment, autant l'un que l'autre, car c'est dans ce monde qu'ils sont l'un pour l'autre ce qu'ils sont, à savoir père et fille. Lui, ce monde-là qu'il faut sauver s'ils veulent donner sens à l'amour entre deux. C'est la même histoire que le père qui arrive devant son immeuble et assiste au milieu de la foule à l'arrestation de sa fille par la Gestapo. Il la voit relever la tête, il la voit essuyer le sang qui lui sort de la bouche. Le père voit sa fille regarder devant elle et soudain, comme une seconde qui interrompt son cours entre le tic et le tac, leurs regards se croisent, père et fille. Et là, dans un incroyable soleil de janvier, il se sourit. Pourtant, tout était perdu. Car tous deux savent que rien, pas un mot, pas un geste pour tenter de sauver la vie de l'un ou de l'autre ne devait être fait. Ils le savaient tous deux, car tous deux savaient que ce qu'ils tentaient de défendre ensemble était plus important que le regard d'une fille vers son père et d'un père vers sa fille. Puis, de nouveau, l'officier frappe, puis frappe encore, exigeant de la fille le nom de code de son père, de sa mère, les cachettes, les secrets, les réseaux, les noms et les circuits. Et la fille, toujours, souriait. Souriait d'un sourire qui semblait dire de loin « Merci pour tout, mon père. » Pour cette vie fabuleuse, cette vie douloureuse, pleine de lumière. Tu vois, je ne te trahirai jamais. L'officier tire 3 balles à bout portant. Une balle dans le cœur, une balle dans le ventre, et la dernière, il a voulu la tirer dans le sourire de la fille, mais elle, femme déjà, avait réussi à cracher au visage de son bourreau avant de tomber au pied du mur, et tombant au pied du mur, elle tombait à jamais dans le chagrin de son père, qui, passant parmi les passants, a dû faire semblant que cela pour lui n'était rien qu'une terroriste de plus, une voyoute, une renégate, une scélérate, une racaille, une canaille, une salope. Dans le regard d'Iphigénie, c'est la même force qui indique à son père qu'ils sont tous les deux l'instrument de la volonté des dieux, mais qu'il existe quelque chose de plus grand que les dieux qui mérite l'abysse dans lequel ce sacrifice va les plonger. La volonté de dépasser l'événement et de dire « Je ne suis pas la victime, tu n'es pas le bourreau, nous sommes dans la coupe du monde, deux fourmis devant la goudronneuse de l'histoire ». Iphigénie ne doute pas de l'amour que son père éprouve pour elle et sait que c'est cet amour qui fonde le sacrifice. Car sans un tel amour, ce sacrifice n'aurait pas été exigé. Que ma mort, jamais mon père, ne te fasse regretter que tu m'aies aimé. Car ce regret-là me tuera vraiment. Tant que tu m'aimes, tant que je suis l'objet utilisé contre toi à cause de l'amour entre nous, alors nous resterons liés. Iphigénie et Agamemnon sont ainsi des personnages tragiques et la mort de l'une sous le bras de l'autre fait plonger ceux qui regardent dans la catharsis quand se joue ce paradoxe insupportable de l'amour à l'instant de la mort. Ainsi en est-il de la tragédie d'Agamemnon et du sacrifice d'Iphigénie. Mais ce tragique-là, avec toutes ses douleurs et ses déchirements, demeure encore à l'intérieur du cercle du rationnel. Aussi insupportable peut-il être pour celui qui est soumis à un pareil choix. On comprend. Il faut bien que les vents se lèvent. C'est horrible, mais on comprend. Et parce qu'on comprend, on peut alors parler, on peut échanger, on peut raconter, en tremblant, mais on peut raconter. On peut transmettre l'histoire d'Iphigénie et Agamemnon et pleurer à notre tour le tragique qui est le leur, qui devient par compassion le nôtre. Mais il existe encore un niveau supérieur de la tragédie où l'amour fait trembler la raison elle-même sans que rien ne soit compréhensible et où les choses échappent à la raison. C'est le tragique de l'amour impitoyable. Alors ça, ce n'est pas un amour gentil, ce n'est pas un amour sympathique, ce n'est pas touchant, ce n'est pas l'amour tel qu'on l'imagine. C'est l'amour de qui aime avec une telle passion que tout le reste est sacrifié. Les douleurs les plus folles qui en découlent, les chagrins les plus inimaginables, n'arrêtent pas le bras de celui qui aime et qui s'apprête à sacrifier ce qui lui est pourtant le plus précieux. Ce n'est pas l'histoire d'Agamemnon et Iphigénie, car Agamemnon est forcé, pour le bien commun, de poser le geste qui tuera sa fille. Il ne s'en remettra pas, il est obligé de le faire. Mais celui pour qui ce n'est pas une obligation, mais une obéissance à l'amour lui-même, celui-là ne peut même plus parler, car ce qui l'agit ne s'explique pas du tout, il n'est même pas entendable. Socialement, c'est impossible. Ainsi, d'égorger sa fille à égorger son fils, on passe en un mot d'un père à un autre, d'un patriarche à un autre, d'un mythe à un autre, d'un sacrifice à un autre, d'un polythéiste à un monothéiste, de l'Europe à l'Asie, de l'Occident à l'Orient, de la mer à la montagne, d'Agamemnon à Abraham. Alors, si Agamemnon s'oppose à Aristemper et Tony Stark sur l'objet qui est à sacrifier, les premiers se sacrifient eux-mêmes, le second sacrifie sa fille. Ils partagent pour autant la raison pour laquelle ils le font, celle d'un monde à sauver. Abraham est leur antithèse absolue. En cela, il ouvre une brèche radicale et rejette tout ce sur quoi repose la raison et l'entendement. Avec Agamemnon, Aristemper ou Tony Stark, Abraham ne partage strictement rien. Abraham n'a d'abord rien à sauver du tout, rien qui soit mis en danger. Il n'y a pas d'astéroïde qui approche, il n'y a pas de Thanos, il n'y a pas d'armée prise au milieu du désert ou de la mer, rien du tout. C'est un vieux monsieur, un peu délirant, qui dort sous sa tente, c'est tout. Il n'a rien, il n'a pas de problème gravissime. Simplement, il a eu une injonction venue de Dieu, un Dieu unique qui lui dit « Prends maintenant ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, « Va dans le pays de Moria, offre-le en holocauste sur l'un des monts que je te dirai. » C'est tout. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune raison. C'est une injonction. On a presque l'impression que Dieu va rajouter « Et n'oublie pas de sortir la poubelle papier en passant. » On en a enfermé pour bien moins que ça. Hein. Dans l'introduction de sa traduction de « Crainte et tremblement » de Kierkegaard, où le philosophe exprime toute son émotion face à cet épisode, Charles Leblanc, qui a traduit l'œuvre, de Kierkegaard, écrit « Vu de l'extérieur, Abraham est un exalté, un furieux, qui entend des voix, un fol illuminé, prêt à sacrifier son fils sur l'autel de sa démence. Vu sous l'angle de l'intériorité, Abraham est le père de la foi. » Dans cette très belle traduction, « Crainte et tremblement », cette œuvre est remarquable à lire, à l'intérieur de laquelle Kierkegaard retrace le silence d'Abraham menant Isaac vers le lieu de son sacrifice. On retrouve ces passages dont je cite ici quelques extraits, mais que j'ai reliés un peu à ma façon pour le besoin de la leçon, mais que vous retrouverez évidemment en intégralité dans le livre. Alors, « Quatre jours durant que dura le voyage vers le pays de Moria, Abraham ne dit pas un mot. Parce que quoi dire ? Quoi dire à Sarah, sa femme, au moment de partir à l'aube pour justifier un geste aussi hallucinant ? Sarah, je pars, je vais sacrifier notre fils unique car Dieu me l'a demandé en rêve et je reviens, ça ne sera pas très long. Ce n'est pas entendable. Et ce n'est même pas entendable pour Isaac lui-même ni pour les serviteurs, pour personne. Alors Abraham se tait, il garde le silence. Le texte poursuit. Au quatrième jour, levant les yeux, Abraham vit dans le lointain le mont Moria. Alors il congédia ses serviteurs, prit Isaac par la main et gravit la montagne. Mais Abraham se disait en lui-même quand même, je ne vais même pas pourtant lui cacher où ce chemin le conduit. Isaac, contrairement à Iphigénie, ne peut pas comprendre son père. Il ne peut pas entendre. Il ne peut être à l'intérieur du cercle où se partage entre père et fils le même monde. Et contrairement à Iphigénie, Isaac supplie, proteste, car, dit Kierkegaard, Isaac ne pouvait pas élever son âme à l'endroit où était son père. Alors il se met à genoux, il demande grâce, il implore pour sa jeune vie et ses belles espérances. Isaac ne veut pas de l'offre de Hermès choisir une existence courte mais glorieuse. Isaac veut une vie longue et sans éclat. Isaac, lui, son choix est clair, une vie longue et sans éclat. Il n'est pas fou, Isaac, mais Abraham le prend par la main et lui fait gravir la montagne. Alors Isaac supplie encore, et lorsqu'il fixe le visage de son père, il voit que son père a un visage horrible. Alors Abraham saisit Isaac à la poitrine, il le jette par terre et il lui dit « Non mais crois-tu donc que je suis ton père ? Je suis un idolâtre. Tu crois que j'obéis aux ordres de Dieu ? Non, ce n'est là jamais qu'un caprice ce que je fais. » Alors Isaac se mit à supplier Dieu de lui venir en aide contre son père, et Abraham de penser à l'intérieur de lui-même, c'est bon, ça a marché, Dieu du ciel, je te rends grâce, mieux vaut qu'il me croie un monstre plutôt qu'il perde la foi en toi. C'est le tremblement extrême face à l'invisible. Isaac ne comprend pas, et face à la mort, il ne peut qu'être saisi de crainte et de tremblement. Et pareil pour Abraham, qui, en s'éloignant du bien commun pour privilégier un bien qui n'a plus de nom, sinon son rapport infini à l'amour de Dieu, il incendie son âme, il crame tout, à tout jamais. Et même lorsque Isaac sera finalement épargné par la main de l'ange, Abraham ne pourra jamais effacer de sa mémoire cet instant où, le couteau à la main, il était sur le point de trancher la gorge de son fils, sans d'autre raison que l'obéissance à cette voix qu'il appelle Dieu. Et du fait de ce tremblement immense, nul n'oubliera ce qui a été sacrifié ici. Et comment ce sacrifice, celui d'une forme d'innocence, changera radicalement le monde pour le sauver en lui imposant une nouvelle alliance qui dès lors interdira toute idée de sacrifice humain. Tout cela donc exposé pour dire ceci. Le tremblement de l'écriture pour celui qui écrit ne relève pas de l'absence de tremblement de Harry Stamper et Tony Stark, au contraire. Ça ne relève pas non plus de celui d'Agamemnon. Trembler pour une cause, pour une raison. Mais écrire relève du tremblement d'Abraham, là où la raison ne peut plus s'élever, là où elle s'effondre. Écrire, c'est répondre à une injonction qui n'a pas d'autre raison que l'obéissance elle-même à ce qui est imposé. On n'écrit pas pour sauver le monde, ni en raison d'un astéroïde, ni à cause d'un Thanos, quel qu'il soit. On écrit simplement par amour pour l'écriture, mais un amour qui n'est pas gentil. C'est un amour qui dicte ces injonctions auxquelles il faut juste obéir. Combien de fois faut-il tuer son fils quand on écrit ? Combien de fois, pour entrer dans le récit, faut-il égorger sa fille ? Combien de fois, à l'orée de l'écriture, lorsque surgit la révélation de ce par quoi le récit doit passer, l'écrivain se dit « oh non, mais non, mais pourquoi j'ai cette idée ? Mais non, mais pas ça, pas ça !» Mais, scellant son âne, on s'emploie dans le silence à aller voir comment notre âme se noircit pour que les mots se trouvant dans la fange de soi-même, la monstruosité de ce que nous pouvons être, nous pourrions être, comment cette écriture peut jaillir. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler ce qui a été exposé au cours de la leçon inaugurale et répété au cours de la première leçon articulée autour du verbe « être ». Il ne s'agit nullement ici d'enseigner quoi que ce soit, surtout pas l'écriture, au contraire, mais d'essayer de cerner pourquoi cela ne s'enseigne pas en mettant à plat, en tentant du moins de mettre à plat, la manière avec laquelle j'ai noué au cours des années un lien particulier avec l'écriture. Et quand je dis particulier, je ne dis pas particulier dans le sens de spécial ou de intéressant, mais simplement de personnel. Et qu'en aucun cas, j'énonce ici ce que doit être ce lien pour tous. simplement ce qu'il est pour moi, sans même trop savoir ce qu'il est pour les autres. Ainsi, lorsqu'il m'a fallu pour un passage clé dans un roman faire le récit à travers la bouche d'un ancien milicien, faire le récit de ce qu'ont été les trois nuits de massacre dans les camps de Sabra et Chatila, j'ai compris que, n'étant pas un auteur qui fonctionne par esprit de propriété, il me fallait, pour parvenir à écrire un tel récit, que j'entre moi-même dans les camps et que je trouve quel milicien et quel bourreau j'aurais été si les circonstances de la vie avaient fait en sorte que je sois l'un de ces hommes. Et cela aurait pu être, puisqu'il s'agissait de miliciens avec qui je partageais la même langue, la même confession, et aussi la même adulation pour Bachir Gemayel, dont l'assassinat déclencha la furie menant à ces massacres. Pour entrer dans une telle nuit, des années plus tard et à des kilomètres de là, ce n'est pas tant par la documentation qu'il m'a fallu passer, bien que celle-ci ait pu me servir de support et de base à des images et des sensations, mais il a fallu, en une sorte d'hypnose, que j'y entre en trouvant dans l'interstice qui sépare l'état de sommeil de celui de l'éveil, une forme de divagation où, lâchant la raison, pénétrant dans la divagation, réitérant l'opération, lâchant les chiens, figurant la géographie des camps, la chaleur de la nuit, la moiteur de la mer à proximité, revenant encore et encore, et retournant sans cesse, tombant de la méditation vers le sommeil, puis me réveillant pour retrouver le rêve, revenir encore et encore, fouiller et retrouver les visages de ceux que j'aime, les ramener à ma mémoire, un à un, trouvant la folie, les conditions pour celle-ci, et un à un, véritablement, entrer dans la sensation de ce que c'est que de les tuer à l'arme blanche, enfoncer la lame, tenter de ressentir ce que ça fait, imaginer le regard, l'incompréhension de la personne qui avait pourtant confiance en moi, l'incompréhension dans son regard et la vie qui s'éteint dans le sien et dans le regret en ressentir à la fois une telle émotion pour que s'ouvrent peu à peu devant moi les camps palestiniens et que j'y entre en cette nuit maudite et dès lors devenir véritablement le massacreur que j'aurais été, le sentir en moi, lui donner toute la place, le ressentir, le trouver véritablement, courir avec les autres hommes, entrer dans les maisons, tuer d'une balle dans la tête sans distinction femmes et enfants et en rire, violer, aider à violer, continuer de maison en maison jusqu'à ce que surgisse cette image simple du meurtrier que j'aurais été et qui n'appartient qu'à moi. Ou bravache pour épater les autres, pour faire voir ce dont moi je suis capable, comment je peux faire mieux dans la panoplie de l'horreur, dans une violence hilarante, hilar, me mettre à éventrer tous les nouveau-nés que je pouvais trouver afin de leur retirer le foie et le manger cru avant de jeter le corps inerte du bébé comme on jetterait le papier ciré d'un sandwich shawarma acheté au chichtaouk du coin. Lorsque cette image fut trouvée, lorsque je sus que, en effet, j'aurais, en d'autres circonstances, été cet assassin-là, tout comme je suis en ce moment cet écrivain-là, alors, tremblant, il a suffi que je m'installe à la table et que je rédige non pas ce que j'ai imaginé, ni ce que j'ai inventé, non pas non plus ce que j'ai étudié sorti de la somme de la documentation existante, mais tout simplement ce que j'avais vécu. Pourtant, il n'y avait pas de monde à sauver. Personne n'exigeait ça de moi, que je me mette dans des états pareils. Il n'y avait pas d'astéroïdes ni de Thanos. Et ce roman que j'écrivais, qui n'existait pas encore, s'il n'avait pas existé, n'aurait rien ôté ni rajouté du fait d'exister ou non. L'univers est plein d'œuvres qui n'ont pas existé. Personne ne m'oblige ni ne me demande rien. Seulement voilà, quand on aime l'écriture, on ne discute pas ses injonctions. On obéit. Et comme expliquer ces injonctions peut aisément vous faire passer pour un psychopathe en puissance, il vaut mieux se taire et ne rien dire ce sur quoi on travaille. Simplement sceller son âne et se mettre en route sans s'occuper de rien et dans le silence. Aller jusqu'au pays du tremblement, vers ce mont que l'écriture nous indiquera pour perpétrer un sacrifice incompréhensible. Jamais aucune intelligence artificielle ne saura saisir l'idée de ce que peut être ce tremblement d'où surgissent les mots dans une imperfection qui traduise précisément le tremblement. Car ce n'est justement pas la perfection qui est rare ni précieuse, mais bien la sincérité de nos tremblements, de nos imprécisions. Ce sont d'elles que naissent toutes nos visions. Jamais un tremblement ne saura tracer une ligne droite. Et c'est exactement cette impossibilité qui rend l'écriture si nécessaire et si juste. Qu'est-ce que c'est un tremblement ? Sinon la répétition incontrôlée d'un geste qui va et vient et passe sans cesse outre un centre, de part et d'autre, et on recommence. On pourrait dire que c'est le signe d'une faiblesse, mais on peut le voir aussi comme une puissance qui consiste à rejeter la fixité. C'est ça un tremblement. C'est une force, une obstination à danser sans cesse autour du centre sans s'y arrêter. Si on décompose le mouvement d'une main qui tremble, on observe que celle-ci amorce un mouvement qui ne va jamais de l'avant vers l'arrière, mais toujours latéralement de droite vers la gauche et de la gauche vers la droite, repassant par un centre sur lequel elle ne s'arrête jamais, comme ça. Si maintenant, entre les doigts de cette main soumise à ce tremblement, on y glisse le crayon de l'écrivain et que l'on pose la mine de ce crayon sur une feuille de papier, le tremblement y laissera la trace de ce que le psychiatre Serge Tisseron, dans son ouvrage intitulé « La main, l'œil, l'image », nomme un balayage, qui, regardé à travers les mouvements d'un enfant de 18 mois, donne à voir, tel qu'il l'écrit dans cet ouvrage, la représentation de la séparation. Ce gribouillage de la main qui va droite, gauche, gauche, droite, permet à l'enfant, écrit Serge Tisseron, d'accéder à la figuration symbolique des va-et-vient maternels. La représentation de ces va-et-vient est réalisée sous la forme de balayage ininterrompu, sans que le crayon ne quitte le papier. Il y est mis en scène l'éloignement et le rapprochement rythmique du corps de la mère, mais aussi de son psychisme. Maman s'en va, maman revient. Maman s'en va, maman revient. Maman s'en va, maman revient. Disparition et réapparition. Disparition et réapparition. À l'aune de cette interprétation, il est permis de voir alors le tremblement comme une manière de rejouer sans cesse les deux mouvements qui caractérisent notre existence sur Terre, que sont la quête et l'odyssée. Partir, revenir, partir, revenir. En effet, si la quête consiste à quitter sa maison pour partir découvrir le monde, l'odyssée est cette tentative, lorsque parvenu au bout du monde, on cherche à revenir chez soi. Et, de quête à odyssée, d'odyssée à quête, notre vie est un tremblement permanent, voire un délire permanent. De ce mouvement répétitif, qui oscille autour de l'espace où se trouve l'enfant, d'où il voit partir sa mère et la voit revenir, il n'y a qu'un pas pour y voir aussi une oscillation autour du temps. Si on imagine le point fixe autour duquel s'articule le tremblement, si on imagine que ce point fixe est le présent, alors trembler signifie aller sans cesse du passé au futur et du futur au passé sans s'arrêter sur le présent. Du point de vue de l'espace, trembler est le verbe qui nous fait passer de la quête à l'odyssée, alors que du point de vue du temps, trembler nous fait passer de la... Trembler est ce verbe qui met en relation l'avant avec l'après, le passé avec le futur, l'histoire avec l'avenir. Du point de vue du temps, nous sommes toujours en train de trembler, puisque, sauf à être une ceinture noire 12e dan de la méditation, nul n'est capable de tenir sa pensée sur le point fixe du présent tout le temps. Au contraire, nous sommes sans cesse ballottés entre le ressassement que nous faisons du passé et le délire où nous plonge notre appréhension du futur. Mais qui trouve la force d'assumer ce balancement, d'accepter de passer du passé au futur, ce tremblement du passé au futur? Il lui est permis alors, en accélérant le mouvement, d'approcher de la transe, de cet interstice dont j'ai parlé, où il faut entrer pour égorger ce qui nous est cher, afin de faire surgir l'assassin en soi et le jeter sur le papier de l'écriture. Et c'est cette transe qui permettait l'énoncé de l'oracle au temple de Delphes. Car si Apollon est bel et bien le dieu de l'oracle, l'oracle cependant était délivré par la Pythie, qui elle entrait dans un état de transe, de tremblement, d'où naissait la parole énigmatique. L'oracle naissait donc du tremblement, du gribouillage, du balayage allant de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, qui s'emparait de la Pythie. Le tremblement s'emparait d'elle et dans cette permutation accélérée qui va de la quête à l'odyssée, de l'odyssée à la quête, du passé au futur et du futur au passé, l'oracle surgissait dans sa gorge. La Pythie devait donc entrer dans un état de folie. On dirait aujourd'hui que c'était une crise d'épilepsie s'emparer d'elle. Mais à l'époque archaïque, cette épilepsie était vue comme le trou où la Pythie s'engouffrait pour avoir accès au lac de la folie commun à tous les humains. La matrice de la connaissance grecque est donc la folie. C'est une intuition qui a fait dire à Giorgio Colli que l'origine de la sagesse grecque trouve sa source dans la folie. Le tremblement est donc une mise en connexion directe avec la fosse de la folie. Trembler, c'est s'en approcher. Or, les héros des films de divertissement américains ont fait du tremblement le symptôme de la peur. Il n'y a que les faibles qui tremblent, ceux qui ont peur de mourir, de la faiblesse, de la couardise, de son absence, de son absence. C'est tout le contraire. Le héros est celui qui, par le tremblement, ose se rapprocher du gouffre de sa propre folie. C'est celui qui, à travers le tremblement, joue à regarder son passé et connecter ce passé à l'avenir, et de l'avenir se relier au passé et recommencer ce mouvement sans cesse. Qui ne sait pas trembler, ne sait pas voir. trembler, c'est alterner. Et pour un écrivain, c'est entrer plus particulièrement dans ce qu'on pourrait appeler la clairvoyance des chauves-souris. La plus banale des chauves-souris émet plus de 100 cris à la seconde. On peut appeler ça un tremblement sonore. Elle hurle, puis se tait, puis hurle, puis se tait, 100 fois par seconde. Se taisant, elle permet à chacun de ses cris de lui revenir sous la forme d'un écho, et chaque écho s'additionne à l'autre pour composer une échographie générale de l'espace qui lui permet de se repérer et de localiser dans l'obscurité n'importe quelle proie, n'importe quel prédateur. Une chauve-souris répète donc 100 fois par seconde l'expérience qui va de la quête à l'odyssée. Son cri sort d'elle et va au bout du monde, elle se tait, l'écho depuis le bout du monde revient à ses oreilles. Et elle recommence, aussitôt. Pour voir, donc, une chauve-souris crie. Mais si le cri est perpétuel, plus rien n'est visible. Chaque cri doit donc être suivi par un silence pour faire entendre son écho. Donc, celui qui ne fait que hurler sa douleur n'en verra jamais le visage, tout autant que celui qui s'obstine à la terre. C'est la leçon des chauves-souris. Pour voir le visage de ce qui fait souffrir, il faut faire de sa douleur un tremblement qui enchaîne les hurlements avec les silences. Cette nécessité de passer par le tremblement n'était pas propre à la Grèce. On la retrouve encore aujourd'hui sous d'autres formes dans toutes les cultures. Les sociétés sud-américaines ont encore, à travers leurs sorciers et chamans, la nécessité de faire face à l'oracle, par exemple. La différence, c'est que celui qui venait le consulter devait se préparer non pas à affronter la pitié, mais à devenir lui-même sa propre pitié. Ainsi, après une cérémonie de purification et de protection contre les esprits néfastes, celui qui cherche la vision, accompagné du sorcier, ingurgite une mixture faite à la base de deux lianes bouillies ensemble. Une seule de ces lianes devient mortelle pour qui l'ingurgite. C'est l'association des deux lianes qui annule le pouvoir destructeur et offre la vision hallucinatoire. Ingurgitant cette mixture, celui qui cherche la vision voit surgir, dans un premier temps, l'amalgame des couleurs, mandala expiatoire où se vident les rébus de son esprit, et après quoi, les véritables visions débutent et devient sa propre mythie, sa propre pitié, et l'on voit devant nos yeux se dessiner les mystères du message oraculaire. Trembler est le verbe qui nous sort de notre raison. On ne contrôle jamais un tremblement. Lorsqu'il nous saisit, on ne peut pas s'empêcher de trembler, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le cacher. Car à travers lui, il nous est donné d'entrer dans l'interstice de nos ruines. Là, précisément, où se trouve ce qui a besoin d'être amené à la parole, par la parole. Le champ où erre ce qu'il y a de plus meurtri en nous. C'est le champ de l'écriture par excellence. C'est donc un champ de vision. Écrire, c'est entrer dans ce champ et plonger dans le rapport au passé, à l'histoire, à la fois intime et collective. Mais comme il s'agit de le faire en tremblant, cela nous connecte directement à l'oracle et à l'avenir. Voilà pourquoi écrire donne accès à la clairvoyance du futur. Écrire, c'est assumer ce rôle oraculaire. La chrétienté s'est construite sur un prosélytisme qui professe l'imminence de la fin des temps, la nécessité de la repentance. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, car le jugement approche. La pensée chrétienne croit donc qu'il est possible de se repentir, qu'il est possible de se rattraper, de se sauver et d'éviter le pire. Les Grecs, eux, avaient un point de vue totalement opposé. La repentance était impossible. Celui qui fait preuve de démesure n'a ni les oreilles ni les yeux pour le comprendre, et la seule manière de le guérir consiste, pour les dieux, à l'encourager à aller dans la plus grande démesure possible encore pour lui faire atteindre ce point Icare de la folie où, tout à coup, sa démesure se révélant à lui, il chutera tragiquement. Du strict point de vue écologique, les oracles scientifiques qui reposent sur les observations les plus précises nous répètent jour après jour que nous sommes dans la démesure et que nous courons rapidement vers notre perte. La question qui se pose alors est qui, du discours chrétien qui pense que la repentance est possible ou celui des Grecs convaincus que la seule manière de comprendre est d'affronter la catastrophe, qui a raison? Ainsi, allant de l'une à l'autre, de la quête à l'odyssée, de l'histoire à l'avenir, c'est dans cet incessant aller-retour que l'écriture, chaque jour, nous confronte à la brûlure de cette éthique, qui est l'éthique du verbe trembler. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.